VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Le mouvement populaire de libération de l'Angola, MPLA, au pouvoir depuis 1975, a officiellement remporté les élections générales avec 61,07% des suffrages, a annoncé mercredi la commission électorale. Le candidat du MPLA, João Lourenço, âgé de 63 ans, succède ainsi à José Eduardo Santos, au pouvoir depuis 38 ans. Il prendra officiellement ses fonctions le 21 septembre prochain. L'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, principale force d'opposition, est créditée de 26,67% des voix. Mission accomplie, a dit M. João Lourenço à ses militants lors d'un rassemblement au siège de son parti. Nous allons offrir un meilleur avenir à notre pays et au peuple angolais. Fin des citations. Une marée humaine de partisans de l'opposition a déferlé hier à Lomé dans 10 villes du Togo pour réclamer une alternance politique dans un pays dirigé depuis 2005 par le président Faure Gnassingbé. D'autres rassemblements sont prévus aujourd'hui dans ce pays de 7 millions d'habitants à l'appel des principaux partis d'opposition. Compte rendu de la manifestation d'hier avec notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
Militants et sympathisants de l'opposition togolaise exigent dans la rue le retour à la constitution de 1992. Les leaders appellent le pouvoir à écouter la rue. Maître Dodia Pévon, président des Forces démocratiques pour la République, FDR.
On ne peut pas tout le temps nous tourner à bon cette fois-ci. Lorsqu'ils vont vouloir faire les choses, il faut qu'ils le fassent pour qu'on sache qu'on a obtenu les réformes. Ce n'est pas juste des promesses qu'ils vont nous faire, on va faire ça et puis on va reculer. On restera mobilisé jusqu'à l'obtention réelle et concrète de ce que nous demandons.
Ce même mercredi, les associations qui soutiennent le président Faure Gnassingbé ont tenu un meeting pour, disent-elles, réaffirmer leur attachement aux valeurs de paix. Boniface Essokassi, l'un des organisateurs.
Nous voulons la paix dans ce pays. Nous n'avons jamais refusé les réformes. Nous voulons les réformes. Nous voulons qu'on fasse ces réformes dans de bonnes conditions.
Ce mardi 5 septembre, le Conseil des ministres a adopté un avant-projet de loi portant modification des articles 52, 59 et 60 de la Constitution togolaise. Ces articles concernent en particulier la limitation des mandats et le mode de scrutin. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Le Tchad, confronté à la chute des cours du pétrole, tente d'attirer les investisseurs. Une table ronde de 3 jours s'est ouverte hier à Paris en présence du président Idriss Déby. Elle regroupe le gouvernement tchadien et ses partenaires pour mobiliser les fonds de financement du plan national de développement. Selon notre correspondant à N'Djamena, André Kodmadjinga, cette table ronde est loin de faire l'unanimité.
Cette rencontre vise à séduire les principaux bailleurs de fonds à mobiliser environ 4 milliards de dollars afin de donner une bouffée d'oxygène aux finances publiques à travers le financement du plan national de développement 2017-2021. Une rencontre qui soulève une vive réaction à N'Djamena comme à Paris. Au niveau national, la CODAC, coordination de l'opposition démocratique pour l'alternance et le changement, estime qu'il y a une utopie autour de ce projet. Baymong Ndombay Brice en est le porte-parole.
Il ne s'agira pas de dons, mais de prêts. Le pouvoir a donc tort de ne pas l'expliquer clairement à son peuple, laissant planer l'illusion qu'il va s'agir donc de l'argent frais que certains habitués rêvent déjà d'empocher. Ces prêts, s'ils sont mal utilisés comme d'habitude, devront être remboursés par les générations futures.
Or, à la veille de cette table ronde, le ministre de l'économie et de la planification du développement, Guito Yambaï, rassure les Tchadiens en ces termes.
Nous avons tiré des leçons de toutes les pratiques de notre pays par le passé et nous avons changé de méthode de travail. C'est pour cela que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous avons pu produire un document politique de long terme et la manière dont nous organisons la table ronde de Paris, elle est différente.
Ce mea culpa ne convainc pas le mouvement citoyen, le pacte, projet pour une alternance crédible au Tchad et la plateforme citoyenne de revendication basée à Paris en France. Ils organisent conjointement ce 6 septembre à Paris, en marge de cette table ronde, une alterconférence pour dénoncer l'appui continu de la communauté internationale au régime de Déby. Abdelkerim Yacoub Koundougmi est le coordonnateur du pacte.
La priorité aujourd'hui, c'est de régler la question de la légitimité du pouvoir en place au Tchad. Le Tchad a bénéficié 2 fois du plan national de développement. Personne n'a fait le bilan. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes qui ont géré cette manne pétrolière de 13 milliards reviennent pour la 3e fois demander de l'aide. Non, il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête.
Le président de l'Union des jeunes pour le renouveau, Miarim Dila Evariste, un organe de l'UNDR, Union nationale pour le développement et le renouveau, que dirige Saleh Kebzabo, chef de l'opposition tchadienne, s'en est pris à l'ambassade de France au Tchad qui a refusé de donner le visa à un membre de l'opposition tchadienne annoncé pour cette alterconférence de Paris.
Il est désormais clair que la racine des maux du peuple tchadien se trouve à Paris. C'est pourquoi, pour traduire en acte le désaccord de la jeunesse tchadienne vis-à-vis de la politique française au Tchad, des actions fortes vont être posées à compter d'aujourd'hui jusqu'à ce que la France revoie sa politique au Tchad.
André Kodmadjingar Ndiamena, VO Afrique.
Quelques 25 000 personnes ont fui de récentes violences en Centrafrique en se réfugiant dans une zone isolée du nord de la République démocratique du Congo, a indiqué mercredi un responsable humanitaire des Nations Unies. Ils se trouvent dans un endroit vide de toute autorité. Il n'y a pas de réseau, pas de route, a expliqué à l'AFP Joseph Nganji, le directeur pour la Centrafrique du Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires, OCHA. Ces réfugiés ont fui des affrontements entre des groupes armés non identifiés début septembre à Zemio, à quelques 733 km à vol d'oiseau au sud-est de la capitale Bangui, sur la frontière avec la RDC. Les accusations de piratage informatique lors des élections kényanes du 8 août ont ravivé le débat sur la pertinence du recours à des solutions électroniques pour accompagner un scrutin à l'enjeu national. La Cour suprême a invalidé le 1er septembre la réélection du président Uhuru Kenyatta face à son rival Raila Odinga, évoquant notamment des irrégularités dans la transmission des résultats, mais il faudra attendre son jugement motivé d'ici au 22 septembre pour savoir si la Cour a relevé des manquements sur la partie électronique du scrutin. À Washington, il est 7h06.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Un sénateur américain poursuivi pour corruption, le procès du démocrate Robert Menendez, élu de l'État du New Jersey, a commencé hier près de New York. Cette saga judiciaire pourrait durer 2 mois. Eric Manirakiza.
Le parquet a retenu 14 chefs d'accusation contre Menendez. Les procureurs fédéraux accusent le sénateur démocrate d'avoir utilisé sa fonction pour défendre les intérêts d'un riche ami entre 2006 et 2013. Robert Menendez aurait bénéficié de nombreux vols gratuits en jet privé du prêt d'une villa en République dominicaine, de 3 nuits dans l'hôtel de luxe Park Hyatt Paris Vendôme, de repas, de parties de golf et de plus de 750 000 dollars de dons de campagne. En échange, M. Menendez aurait aidé un homme d'affaires de Floride, Salmon Melgen, dans l'attribution d'un contrat de marchandises par les douanes de la République dominicaine et dans l'obtention de visas américains pour les petites amies de cet homme d'affaires, sans oublier le règlement d'un contentieux avec le ministère de la Santé américain. À son arrivée au tribunal fédéral de Newark, le sénateur Menendez a déclaré qu'il n'a jamais déshonoré sa fonction. En cas de condamnation, il risquait la prison et perdrait son siège de sénateur. Il reviendrait alors au gouverneur républicain du New Jersey, Chris Christie, de nommer un successeur. Ceci pourrait avoir des conséquences politiques importantes dans les rangs des démocrates au niveau de l'actuelle répartition du Sénat si un républicain remplaçait Menendez.
Donald Trump a accepté mercredi la proposition et le soutien des parlementaires démocrates pour faire adopter par le Congrès des États-Unis un relèvement du plafond de la dette fédérale américaine pour une période de 3 mois allant jusqu'au 15 décembre. Cette annonce a été faite par le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, et par la chef des représentants démocrates à la Chambre, Nancy Pelosi, après une rencontre avec le président américain à la Maison-Blanche en présence des dirigeants républicains du Congrès. Les élus républicains traditionnellement réticents sur ce sujet tardent à accepter le relèvement du plafond de la dette fédérale, demandant que celui-ci s'accompagne d'une baisse des dépenses publiques. Et puis, l'ouragan de catégorie 5 Irma a frôlé hier soir le nord du territoire américain de Porto Rico avec des vents soufflant jusqu'à 295 km/h, provoquant des coupures de courant et de fortes précipitations, même si l'œil du cyclone est resté au large de l'île. Entre 15 et 30 cm de précipitations sont attendus sur le nord de l'île d'ici samedi. Porto Rico a été placé en état d'alerte par le président américain Donald Trump mardi, tout comme les îles Vierges américaines et la Floride. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est exactement dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.